Europe 1. Ondelatte raconte. Christophe Ondelatte.
Avant d'entrer dans les salades du commissaire Néret, je veux vous dire deux ou trois choses que je crois avoir tirées de ma fréquentation des flics depuis tant d'années. Un flic de la PJ, la police judiciaire, c'est un flic qui donne toute sa vie à la police. Ses soirées, ses week-ends, ses vacances, ça ne s'arrête jamais. Alors que dans ce don de soi complètement dingue, à un moment, on perd les pédales, ça peut se comprendre, non ? Notez que je n'ai pas dit se pardonner, j'ai dit se comprendre. Néret est allé du côté obscur de la force. Il a passé les limites de la loi. Il doit payer. Il n'y a pas de débat là-dessus. En revanche, si on retient de cette histoire qu'il ne faut plus recruter que des flics bien propres, je crains qu'on ne fasse fausse route. Pour traquer des tueurs, des violeurs, des dealers, il n'y a pas d'autre méthode que de se salir les mains. Un minimum. Michel Néret était le numéro 2 de la PJ de Lyon. C'était un grand flic, un peu flambeur, mais séduisant, sympathique. À Lyon, c'était un personnage très respecté. Et puis un matin de septembre 2011, le 29, patatras, les bœufs carottes débarquent chez lui à 6h du matin. Michel Néret habite un petit château, la Gabetière, à Estrablin, au sud de Lyon, dans l'Isère. C'est un hôtel, hein, 3 étoiles. C'est sa femme qui en est la propriétaire et la patronne. Ils vivent sur place dans un logement privé. Et donc le matin du 29 septembre 2011, à l'aube, voilà les bœufs carottes qui débarquent, à plusieurs voitures. Ils se garent sans bruit, et à 6h pétantes, des dizaines d'hommes surgissent des voitures. Ils sont armés, ils ont des brassards de police orange, et leur chef sonne à la porte.
« Police ! Ouvrez !»
Et là, apparaît un type mal réveillé et hirsute, en pyjama, le commissaire Michel Néret, qui a passé sa vie à interpeller des gens comme ça, au saut du lit. Eh bien, cette fois, c'est lui. C'est lui qu'on vient chercher.
Michel Néret ? Lui-même ?
Je me présente, je suis Daniel Jacquem, je suis commissaire à l'inspection générale des services. J'ai un mandat d'amener vous concernant, monsieur Néret. À dater de cet instant, vous êtes placé en garde à vue.
Ce Daniel Jacquem est le numéro 2 de l'IGS, la police des polices. Il s'est déplacé en personne, et ça sent pas bon. Un juge d'instruction est là aussi, dans un coin, venu de Paris. Il y a du beau linge pour son arrestation. Immédiatement, Jacquem appelle le numéro 1 de la PJ de Lyon, pour le prévenir.
Commissaire Cato. Commissaire Jacquem à l'appareil de l'IGS. Voilà, je voulais vous prévenir que nous venons d'interpeller et de placer en garde à vue votre adjoint, monsieur Néret. Oui, il est normal que je vous en informe. Nous aurons bien sûr à nous reparler. Voilà. À bientôt, commissaire.
Le commissaire Cato, le patron de la PJ de Lyon, dira plus tard « Ça m'a fait l'effet d'un seau d'eau sur la tête ». Et ensuite, les flics de l'IGS se lancent dans une perquisition en sa présence, comme c'est l'usage. Ils tombent sur une dizaine de montres, dont une montre Cartier. Et ils saisissent aussi les 2 voitures, celle du couple et son véhicule de service. Rien de plus. Et après, vous savez où ils l'emmènent ? Ils l'emmènent à l'APJ de Lyon, dans son service. Imaginez la scène. Ils le font rentrer par l'arrière, menottes au poignet. Néret, le king de l'APJ. Et là, perquisition en règle de son bureau, au dernier étage. Ils saisissent tout, les armes, les ordinateurs, les portables, et dans un tiroir, ils mettent la main sur un document extrêmement précieux. Une pochette sur laquelle il est écrit BCS. Ça veut dire Bureau Central des Sources. Ils viennent de tomber sur la liste complète des tontons de la PJ de Lyon. Les informateurs de Michel Néret. En milieu de matinée, c'est Europe 1 qui lâche la nouvelle. Le numéro 2 de la PJ de Lyon serait un ripoux.
Ce grand flic de 55 ans est une figure de la PJ respectée et admirée par ses collègues et par ses hommes. Chevalier de la Légion d'honneur, c'est aussi un commissaire à l'ancienne qui a toujours voulu rester près du terrain, au contact des voyous, près de 25 ans dans la région lyonnaise. C'est peut-être ce qu'il a perdu. Michel Néret était sur écoute depuis plusieurs mois et le dossier serait accablant. Il est soupçonné, vous l'avez dit, de corruption et de trafic de drogue, d'avoir vendu des informations à des trafiquants et peut-être même d'avoir remis en circulation des saisies de cocaïne. Soupçonné aussi d'être intervenu auprès de certains magistrats lyonnais pour obtenir la remise en liberté de certains de ses indicateurs ou de ses amis.
À 16h, Néret est embarqué dans une voiture, direction Paris et les locaux de l'IGS dans le 12e arrondissement. Il ne sait toujours pas précisément ce qu'on lui reproche, quoiqu'il doit avoir une petite idée. Ça fait 6 mois qu'un juge enquête sur lui discrètement. Voilà comment ça a commencé. Voilà comment les bœufs carottes ont commencé à avoir des doutes sur Michel Néret. En novembre 2010, une équipe des Stup loge une planque de trafiquants de drogue à Neuilly-sur-Seine, dans la banlieue chic de Paris. Un appartement dans lequel il trouve 111 kilos de cocaïne pour une valeur estimée de 7 millions d'euros. 4 personnes sont interpellées et placées en garde à vue. Mais d'autres ont eu le temps de s'échapper. Et comme ils sont identifiés, ils sont placés sur écoute. Notamment un certain Yannick Dacheville, soupçonné d'être le cerveau de ce réseau. Eh bien, ce sont les écoutes de ce Dacheville, trafiquant de dope, qui déclenchent l'affaire Néret. Au téléphone, ce Dacheville est prudent. Il se doute peut-être qu'il est branché. Mais un de ses copains, un certain Bénichou, lui, est un gros bavard. Et un jour, il dit...
Dis, si t'as besoin, je connais quelqu'un de très haut placé à Lyon. C'est mon joker, il m'en doit une. Tu me dis.
L'idée n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd. Quelques jours plus tard, Dacheville appelle Bénichou.
Dis donc, ton joker, là, tu pourrais pas lui demander de me procurer ma fiche Schengen ? J'aimerais bien savoir si, quelque part en Europe, j'ai des flics sur le dos. Il peut faire ça ? Je vais voir. Je te tiens au courant.
Et là, les flics entendent Bénichou appeler son joker, un certain Michel.
Dis donc, Michel, tu pourrais me rendre un service ? J'ai un copain, là, Yannick Dacheville. Dacheville, oui. Il voudrait avoir sa fiche Schengen. Tu peux m'avoir ça ? Ok, ok. Je te tiens au courant.
Et il ne leur faut pas 2 heures pour savoir qui est ce Michel. Ils hallucinent. Michel Néret, le numéro 2 de la PJ de Lyon, il fournit des fiches Schengen à des truands. C'est à partir de là qu'ils se mettent à ses basques. D'autant que ça se passe comme prévu. Néret fournit la fiche à Bénichou, qui la file à Dacheville. Oui, monsieur, mieux que ça. En remerciement, Dacheville donne 30 000 euros à Bénichou. Et que fait Bénichou avec cet argent ? Venu tout droit, je vous le rappelle, d'un trafic de cocaïne. Il invite Néret et sa femme Nicole en vacances au Maroc, dans un 4 étoiles, pour leur anniversaire. Bon anniversaire, monsieur le commissaire. À partir de ce moment-là, c'est la police des polices qui s'occupe du dossier Néret. Et qui observe donc que, à son retour du Maroc, le commissaire se met à mener grand train. Au point d'ailleurs que ça commence à faire jaser. Tout le monde a remarqué que Néret paye ses notes de restaurant en liquide et plus avec sa carte de crédit. Et pile au même moment, on s'aperçoit que Bénichou se lance dans l'exploitation quasi industrielle des fiches de police. Lui et son cousin, Stéphane Alzra, se mettent à vendre les fiches Schengen ou les fiches Interpol à tous les truands du coin. Ils en vendent 17 en quelques semaines. Et leur dealer s'appelle Michel Néret. Il a perdu la tête. Il vend des fiches de police à toute la mafia du coin, le numéro 2 de la PJ. Et en juin, ça se corse. Stéphane Alzra, le cousin de Bénichou, est condamné à 1 an de prison pour fraude fiscale. Et comme il n'a pas trop envie d'aller en prison, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle son copain Néré. Et Néré, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il appelle le procureur et il lui dit « Oui, ça serait embêtant de l'envoyer en prison, vous voyez, c'est un de mes informateurs, figurez-vous. » Et ça marche. Le procureur, qui n'a aucune raison de douter du commissaire, suspend le mandat d'arrêt contre Stéphane Alzra. Mais jusqu'où ira-t-il? Et que fait Alzra pour le remercier? Faut bien remercier Michel pour cette intervention. Il lui a évité la tôle. Eh bien, au mois de juillet, on voit Stéphane Alzra, bras-dessus avec Madame Néré, aller ouvrir un compte en Suisse, à Genève. Les Néré, mari et femme, sont arrêtés 3 semaines plus tard. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de ce flic pour qu'il accepte qu'un truand lui ouvre un compte en Suisse? Ce que découvrent les Boeufs Carottes est tellement énorme qu'il est peut-être temps que je vous dise qui est Michel Néré, pour que vous réalisiez à quel point la chute est brutale. Néré, d'abord, c'est un fils de mineur lorrain. C'est un fils de prolo. C'est la vie de chien de son père qui lui donne l'envie de s'arracher, de se secouer les puces, de faire des études. Alors après son bac, il fait son droit et à 23 ans, il intègre l'École nationale supérieure de la police. C'est la seule à former des commissaires. Et à la sortie, on lui demande « Où est-ce que vous voulez aller, monsieur Néré ?» Et lui, il dit tout de suite « Lyon ». Et pourquoi Lyon ? À cause du mythe. Lyon, c'est le gang des Lyonnais. C'est le braquage de la poste de Strasbourg, 11 millions évanouis dans la nature. C'est avec ces gars-là qu'il veut se coltiner. Et en plus, on vient de créer à Lyon une unité spécialisée dans le grand banditisme, la BRI. C'est ce qu'il lui faut, la BRI de Lyon. Bon, faut pas rêver, ça sera pas pour tout de suite. Il est d'abord affecté à Grenoble. Et d'ailleurs, c'est là qu'il rencontre Nicole, qui va devenir sa femme. Elle a 7 ans de plus que lui, et elle vient de se séparer d'un voyou. Décidément, même en amour, les voyous ne sont jamais loin. Et ensemble, ils s'installent à la Gabetière, un manoir du XVIe siècle, dont Nicole a hérité de sa grand-mère, et dont elle fait un hôtel, qui sera aussi leur maison. Et ensuite, Néré doit encore patienter avant de s'installer à Lyon. Comme tous les flics, on l'envoie se faire les dents en région parisienne. D'abord à la PJ de Versailles, puis à la PJ de Meaux, en Seine-et-Marne. Mais il rêve toujours de Lyon et de l'anti-gang. Alors il harcèle sa hiérarchie. « Je veux Lyon, je veux Lyon, je veux la BRI de Lyon !» Et comme ses états de service sont impeccables, à un moment, il n'y a plus de raison de le lui refuser. Et voilà comment, en septembre 1983, à l'âge de 28 ans, Michel Néré est nommé adjoint du chef de la BRI de Lyon. Et à partir de là, il se donne tout entier à son métier, nuit et jour, week-end compris. Et à ce prix-là, eh bien ça marche. Il enchaîne les belles affaires. En 2003, par exemple, c'est lui qui arrête les évadés de la prison de Luynes. Et on commence à dire Néré est un grand flic. Alors en 2004, on lui donne la Légion d'honneur et 3 ans plus tard, il est nommé numéro 2 de la police judiciaire de Lyon. Et ça enchaîne. Il bat les records de saisie de drogue en France en mettant un jour la main sur 1 tonne de cannabis et 110 kilos d'héroïne. Mais attention, soyons clairs. On ne réussit pas ça sans mettre les mains dans le cambouis, et même dans la merde. Pour sortir des affaires, pour avoir des tuyaux, il faut fréquenter les voyous. C'est comme ça que ça se passe dans tous les services de police judiciaire de France. Jusqu'à quel point? Eh bien, c'est tout le débat. Et en tout cas, ce sera le débat quand il faudra juger Néré. Mais pour l'instant, personne ne lui cherche des poux dans la tête. Néré est une star. Et d'ailleurs, quand l'ancien flic devenu cinéaste, Olivier Marchal, veut faire un film sur le gang des Lyonnais, à qui il s'adresse? À Michel Néré. Il l'engage comme conseiller technique. Ils se ressemblent, ces deux-là. Le même goût pour la police à la marge, le même goût pour les zones grises. Et figurez-vous que sur les conseils de Néret, Olivier Marchal embauche Bénichou pour un petit rôle. Et c'est à ce moment-là que, pour le remercier, Bénichou lui offre une montre Cartier, en or et en diamant, s'il vous plaît, d'une valeur de 30 000 euros. Cette montre qu'on a retrouvée chez lui au moment de la perquisition. Plus tard, quand on lui posera des questions sur ce cadeau, Néret dira
« Je vois pas le problème, hein. J'ai juste permis à Bénichou de réaliser son rêve d'enfant, c'était de faire du cinéma. »
Ah, ce Bénichou. Au point où ils en sont dans leur enquête, les policiers de l'IGS pensent que c'est l'ange maléfique de Néret. C'est lui qui l'entraîne du côté obscur. En tout cas, à partir de ce moment, à partir du film, à partir de la montre Cartier, Néret et Bénichou sont amis. Et peu importe ce qu'en pensent les autres, Néret n'a aucun complexe à s'afficher avec lui. Aucun. Il boit le café tous les matins avec lui. Et alors, l'autre lui fait des petits cadeaux. Et alors? Et ce que remarque le patron de la PJ, Claude Cadeau, c'est qu'à cette période-là, son adjoint s'isole de plus en plus. Avant, la porte de son bureau était grande ouverte, comme c'est la règle dans le service. Eh bien maintenant, il s'enferme. Et c'est pas tout. Avant, Néret avait des allures de flic beau gosse, mais sans chichi. Barbe de 3 jours, chemise blanche toujours ouverte à la Bernard-Henri Lévy. Mais maintenant, il a des costards à 3000 balles et des pompes de marque. Tout le monde avait vu que quelque chose avait changé. Mais personne ne se doutait que c'était grave. Bon Dieu, qu'elle est longue, cette journée du 29 septembre pour le commissaire Néret. Interpellé à 6h du matin chez lui, en Isère, passé ensuite par son bureau à Lyon, le voilà à 20h à Paris, dans les locaux de la police des polices. On le fouille, il passe l'examen médical obligatoire, il reçoit la visite de son avocat, et à 20h10 débute le premier interrogatoire mené par le commissaire Jacquem en personne, le numéro 2 de l'IGS. Les questions sont courtes. Pour l'instant, on n'entre pas dans les détails. Est-ce qu'il connaît Bénichou? Oui, il le connaît. C'est un ami. Est-ce qu'il connaît son cousin Stéphane Alzra? Oui, mais un peu, pas très bien. Ce que Michel Néret ne sait pas à ce moment-là, mais dont il peut se douter, hein, c'est son métier. C'est qu'au même moment, Bénichou et Alzra sont interrogés dans le bureau d'à côté. Et au petit matin, Bénichou passe à table. Oui, il a récompensé Néret pour ses services. Oui, le compte en Suisse, c'était pour ça. Et Michel Néret, qu'est-ce qu'il en dit? Il a une explication.
Bénichou et Alzra, c'était des tontons, ok? C'était mes indics. Vous pouvez pas comprendre, vous connaissez pas notre métier. C'est pas un métier d'enfant de cœur.
Bref, il n'a rien à se reprocher. Il a accepté ses cadeaux pour le bien de la police française.
Est-ce que vous entendez, Monsieur Néret, que tous ces éléments mis bout à bout laisse penser que vous vous êtes laissé corrompre? Est-ce que vous entendez ça?
Ouais, je comprends bien qu'on peut lire les choses comme ça, mais c'était pas ma démarche. C'était pas pour le pognon que je le faisais. C'était pour le boulot. Ces types me filaient des tuyaux.
On parle maintenant du compte en Suisse. Compte ouvert par Bénichou au nom de Madame Néret. Un compte en Suisse ouvert par un truand, c'est un souci, non, Monsieur Néret?
Je reconnais que ça a été une surprise. Hein. Je ne m'y attendais pas, mais c'était pas pour m'en servir tout de suite. Hein. C'était pour plus tard. C'était pour ma retraite.
Drôle de défense. Le problème, c'est que dans le bureau d'à côté, Bénichou est en train de le lâcher.
Vous voyez, je pense que Michel Néret a des origines très modestes. Et quand il a rencontré Stéphane Alzra, qui a 31 ans et qui roule dans des voitures de luxe, ça l'a fait rêver quelque part, vous voyez. Michel, il a donné toute sa vie à la police. Et à 55 ans, il n'a pas le train de vie dont il aurait rêvé. Ça, c'est sûr.
La garde à vue du commissaire Néret dure 4 jours, conformément à ce que dit la loi, dans les gros dossiers de stupéfiants et de crimes organisés. et le 3 octobre à 8h, Michel Néret est présenté au juge d'instruction, qui retient, tenez-vous bien, 12 chefs de mise en examen. 12. Corruption, vol, blanchiment, le tout en bande organisée, dans le cadre d'un trafic de stupéfiants. Si on en reste là, Néret est passible de la cour d'assises. Et en attendant, il file en cabane. Le commissaire Néret va dormir à la prison de la santé. Et au moment de partir, il dit au juge
« J'espère que tout ça va pas éclipser mes années de service, dont je suis fier. »
Europe 1. C'est donc l'information de la soirée et nous allons tout de suite au palais de justice de Paris. Pierre de Cossette, le numéro 2 de la PJ de Lyon, Michel Néret, a donc été placé ce soir en détention provisoire.
Mais ce n'est pas une surprise, Jean-Michel Carabin.
Michel Néret va passer 8 mois à la prison de la santé, dans ce qu'on appelle le quartier VIP. VIP, faut rien exagérer, c'est pas le Ritz. C'est juste un quartier à part, pas plus luxueux que les autres, mais séparé des autres. On ne pouvait pas mettre Michel Néret dans la même cellule, ni le même couloir que les types qu'il a arrêtés toute sa carrière. Un flic en tôle, en général, ça excite les détenus, normal. Et d'ailleurs, même là, même à distance, depuis la cour, à travers les grilles, il l'insulte.
Néret ! Enculé ! Néret ! Ripou !
Un jour, l'acteur Samy Nasseri, qui est de passage lui aussi au quartier VIP, pour l'une de ses nombreuses algarades, est obligé de prendre sa défense.
Mais putain ! Arrêtez, bordel ! Vous savez pas qui c'est !
On aura même droit à une photo de Michel Néret dans la cour de promenade, prise par Paris Match et VSD. Cheveux longs, jogging à capuche, une vraie tête de marlou. Et puis finalement, après 8 mois à la prison de la santé, en mai 2012, Michel Néret est libéré.
Oui, comme Europe 1 vous le révélait dans le journal de 18h, l'ancien numéro 2 de la PJ de Lyon a quitté la prison de la santé. Vous savez que la justice lui reproche des faits de corruption et ses liens présumés avec le milieu. Et même s'il reste sous contrôle judiciaire, c'est le soulagement bien sûr pour ses proches et ses avocats. Maître Sauver, au micro d'Émilie Nora.
Dire s'il va travailler, c'est un peu prématuré. Pour l'instant, il est toujours policier. Il est effectivement dans une situation un peu intermédiaire par rapport à son état de policier. Il va reprendre un peu des forces, si je puis dire, reprendre un petit peu des couleurs. Et puis ensuite, il verra un petit peu comment on peut s'organiser.
Michel Néret est libre, mais il est interdit de séjour dans la région de Lyon. Donc, il va s'installer dans sa région natale, la région de Nancy. Il n'a plus de boulot, on lui a supprimé son permis. Tous les jours, il va pointer à la gendarmerie en vélo. En septembre, il apprend qu'il n'est plus policier. Le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, a suivi l'avis du conseil de discipline de la police, qui lui demandait sa révocation. Il n'aura même pas droit à sa retraite. Et en mai 2015, après 3 ans et demi d'instruction, Néret, Bénichou, Azra et quelques-uns de leurs complices sont renvoyés devant le tribunal correctionnel. Il échappe aux assises. C'est déjà ça. Soyons clairs dans ce procès qui débute. Néret encourt jusqu'à 10 ans de prison. Et sur le banc, il se retrouve seul, avec sa femme. Bénichou n'est pas là, il ne s'est pas présenté. Et Alzra s'est évadé de prison. Il est en cavale. Alors quelle est sa ligne? Sa ligne, c'est toujours la même. Il a infiltré le milieu pour des raisons strictement professionnelles. Mais il veut bien concéder des imprudences.
Oui, étonnant de voir Michel Néret se recroqueviller progressivement à la barre. D'abord fier d'expliquer comment marche un indique, de raconter ses belles affaires résolues grâce à des tontons. Il justifie ses liens avec les trois voyous jugés en même temps que lui, des membres de ce qu'il appelle le milieu juif lyonnais, sur qui il comptait pour faire de beaucoup. Au lieu de ça, tout ce qu'a fait le commissaire, c'est les renseigner en consultant des fichiers de police. Michel Néret n'est plus le super flic dans le tribunal. Il admet à voix basse avoir manqué de professionnalisme.
Et puis une semaine après le début du procès, vient ce moment où Michel Néret doit s'expliquer sur les cadeaux qu'il a reçus.
Naïveté ou mensonge éhonté, Néret doit d'abord s'expliquer sur ce voyage à Marrakech, partiellement payé par l'argent d'un voyou en cavale. Il jure que s'il l'avait su, il aurait décliné sur le champ. Second séjour au Maroc, cette fois juste pour son épouse. L'occasion à l'audience d'une plongée dérangeante dans l'intimité du couple, quand Nicole explique que ce séjour arrangeait bien son mari, qui pendant ce temps pouvait profiter de ses maîtresses. Les voyous, en tout cas, semblent avoir tiré parti de la situation du couple. L'un d'eux donne à Michel Néret une montre de luxe en le convainquant de l'offrir à sa femme pour la reconquérir. Autre montre, à près de 30 000 euros celle-là, une Cartier offerte par Bénichou en remerciement d'un simple rôle de figurant dans le polar Les Lyonnais. Le commissaire affirme avoir cédé, mais quand on parle de remise d'argent liquide, dément formellement avoir reçu le moindre centime, il explique avoir gagné au casino pour expliquer les billets qui sortaient de ses poches à l'époque. Le président du tribunal, un brin moqueur, s'étonne d'entendre Michel Néret user des mêmes excuses que les truands qu'il a lui-même interrogé pendant sa carrière.
Ensuite, on parle de la drogue qui lui est arrivée de prélever sur les lots qu'il venait de saisir pour la donner à des truands qui l'ont remise dans le circuit. Il dit que c'était pour fidéliser ses indics et que ça ne lui est arrivé qu'une seule fois, 300 grammes de résine de cannabis. Le procès dure 3 semaines et à la fin, il s'y met à 2 procureurs pour réclamer 4 ans de prison, dont 18 mois avec sursis contre Néret et 12 mois de prison avec sursis contre sa femme. La parole est à la défense. Pendant 2h30, les avocats de Néret rappellent les grands coups et les faits d'armes de leurs clients.
On ne peut pas réduire 30 ans de vie professionnelle exemplaire à 8 mois de dérive. Michel Néret s'est fait berner par des voyous qu'il devait infiltrer. Voilà la vérité. Mais son objectif à lui était de noyauter ce groupuscule pour faire une belle affaire, avec le but premier de toujours servir l'État.
2 ans et demi ferme, c'est la peine prononcée cet après-midi par le tribunal correctionnel de Paris à l'encontre donc de l'ancien numéro 2 de la PJ de Lyon, jugé pour avoir fourni des informations confidentielles à des membres du milieu, présentés comme des indics en échange d'avantages et de cadeaux. Une affaire qui avait créé un traumatisme.
Bénichou, qui n'est pas là, prend 5 ans. Et Stéphane Alzra, qui n'est pas là non plus, 2 ans. Et Madame Néret s'en sort avec 8 mois avec sursis. La peine de Michel Néret est aménageable. C'est le tribunal qui le dit. Et comme il a déjà fait 8 mois de tôle, il ne retournera pas en prison. Alors à la sortie du palais de justice, il s'adresse pour la première fois aux journalistes. Il est soulagé.
C'est la fin d'une dure épreuve qui a marqué ma vie pendant 5 ans. Maintenant, je pense que je vais pouvoir revivre une vie différente. Quand j'examine de manière abrupte les faits, c'est vrai que je peux comprendre l'interprétation qui est faite, qui n'est pas la mienne, mais je peux comprendre l'interprétation qui a été faite par l'autorité judiciaire. Mais ça n'a jamais été mon but dans ma vie professionnelle. Je pense que beaucoup de gens sont venus le dire et le déclarer. C'est simplement ce que je voulais dire.
Est-ce que vous avez un message pour la police aujourd'hui ?
J'aimerais que la police soit comme je l'ai faite pendant 35 ans, c'est-à-dire avec beaucoup d'énergie, beaucoup d'envie, beaucoup de passion, parce que je pense que c'est le paramètre principal aujourd'hui.
Et avec les mêmes méthodes à l'ancienne ?
chacun adaptera ses méthodes. Je pense que les miennes, c'était peut-être des méthodes révolues, puisqu'on m'a condamné pour ça, hein, et puisque voilà, ça a été des méthodes qui ont été décriées pendant ton jugement. J'ai des regrets sur les 6 derniers mois de ma vie, évidemment. Rétrospectivement, j'en ai des regrets. Mais sur les 35 ans, ma vie professionnelle, je l'ai faite avec une seule passion et l'envie des résultats. Et sans flagornerie, je pense qu'on a eu avec mes équipes des résultats extrêmement forts. Et c'est de cela dont je me souviendrai pour ma mémoire policière.
Néré annonce qu'il ne fera pas appel. Tout ça est derrière lui. Sauf que, eh ben, c'est pas fini. Fera pas appel. Mais le procureur, lui, décide de faire appel. Il n'est pas satisfait de cette peine de 2 ans et demi aménageable. Et il n'est pas content non plus de la peine de Stéphane Alzra, contre lequel il avait demandé 5 ans de prison et qui n'a écopé que de 2 ans. Donc il y aura un autre procès. Et Michel Néré accuse le coup. D'après ce que dit son avocat, il est sidéré. Il est complètement effondré. On est en 2016, le procès en appel n'aura lieu que dans 2 ans ou mieux. Pas facile de caser un procès de 3 semaines dans le planning chargé d'une cour d'appel. Et le problème, c'est que pendant ce temps, Néré n'a plus de travail. Il n'a plus de revenus. Alors il écrit un livre qui paraît quelques mois plus tard chez Plon, sobrement intitulé « Flic ». Et dans ce livre, à la première page, il écrit « À 60 ans, après avoir été radié, traîné dans la boue, jeté en prison, après avoir vu des amis de toujours me tourner le dos, des journalistes toujours bien intentionnés me traiter avec fiel, j'allais pouvoir recommencer à respirer sans avoir cette angoisse du lendemain. J'ai payé, et après avoir défendu la société avec engagement et dévouement, celle-ci se retourne encore contre moi. Cet appel vient tout remettre en question et m'entraîne pour 2 ans encore dans une période d'inquiétude, de fatigue et de noirceur. Et plus loin, pour la première fois de ma vie, je suis en colère contre le système. Pire, j'ai la haine. Et ce livre signé Néré se termine par un chapitre étonnant. Je vous le lis. Il me reste une dernière chose à accomplir. Retrouver Bénichou et Alzra. Je veux avoir ces 2 hommes-là en face de moi. Dans 6 mois, dans 2 ans, dans 5 ans, peu importe. J'irai à Tel Aviv, je les regarderai dans les yeux et je leur demanderai. Cette amitié était-elle vraie ou fausse ? Car cette chaleur qu'ils m'ont manifestée, cette affection que j'ai ressentie, ce courant d'amitié, n'était-ce que du carton-pâte ? Si c'est le cas, alors ma peine sera doublée. En dehors de cette condamnation judiciaire, il y aura cette peine intime, la certitude que les sentiments sont gangrénés, que les liens d'homme à homme sont pourris, que la fraternité n'a aucune valeur. La terre des hommes, dans ce cas, ne serait plus qu'un marais gluant. L'est-elle ? J'ai besoin de le savoir.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.